Bienvenue dans le débat. Si vous nous écoutez en ce moment, repensez un instant à la façon dont vous avez dit bonjour à votre collègue ce matin.
Ouais, ou même à la voix que prend un patron pour annoncer une mauvaise nouvelle.
Exactement. Avez-vous remarqué comment le timbre change? Comment le souffle se fait plus court ou peut-être plus posé? Ce n'est pas un accident.
Non, c'est clair.
Le son que nous produisons est le résultat d'une mécanique d'une précision redoutable. Et aujourd'hui, nous plongeons dans une exploration croisée des multiples perspectives soulevées par le programme Vocalis.
C'est la méthode de Valentina Vagliani, c'est ça? Dédiée à la pédagogie de la voix.
C'est bien ça. Et c'est un matériel fascinant, vraiment.
Oh, totalement. Parce que ça nous force à examiner la toute première interface entre notre intériorité et le monde physique. La voix, ce n'est pas juste du son. C'est une véritable empreinte biométrique.
Et c'est justement ce qui nous amène à la problématique de notre échange. À travers les principes stricts de cette méthode Vocalis, comment doit-on fondamentalement comprendre la voix humaine? Est-ce principalement un outil artificiel, une construction qu'on façonne consciemment pour, disons, maîtriser son environnement ou s'imposer en entreprise?
Ou bien, et c'est la grande question, s'agit-il avant tout d'une essence intime, une vérité innée qu'il faudrait simplement révéler pour atteindre un bien-être existentiel?
Voilà l'attention au cœur du texte de Vagliani.
Oui, le matériel est traversé par cette dualité, c'est très clair. D'un côté, on lit que la voix est, je cite, « un acte de création de l'homme, un geste à parfaire ».
Et de l'autre, on trouve une injonction beaucoup plus viscérale, le fameux « ma voix, c'est moi ».
Exactement, associé à une sensation de plénitude.
Alors, pour ma part, je suis convaincue que la pédagogie vocale présentée ici est fondamentalement une démarche d'ingénierie, de construction et de contrôle technique visant l'efficacité sociale.
Eh bien, je viens avec une lecture radicalement opposée. J'affirme que cette méthode est une démarche de libération personnelle où la technique sert uniquement à révéler une identité authentique.
Laissez-moi asseoir ma perspective en plongeant dans la mécanique que le texte lui-même met en avant, si vous le voulez bien.
Je vous en prie, allez-y.
Quand on observe attentivement le programme Vocalis, le vocabulaire est vraiment celui de la maîtrise acoustique. On y parle de stabiliser et parfaire le son émis.
C'est vrai, ces termes y figurent.
On parle de s'approprier des outils physiologiques. Et ce n'est pas une simple métaphore. Physiologiquement, parler, c'est dans la mécanique des fluides, c'est de la gestion de pression.
Bien sûr.
Vous contractez votre diaphragme, l'air remonte sous pression dans la trachée et vient heurter les cordes vocales. Et la finalité de Vagliani, c'est de maîtriser cette tuyauterie pour acquérir assurance, confort et présence.
Mais votre description de l'acoustique est exacte. Seulement, vous en tirez une conclusion qui me semble inverser le processus décrit.
Inverser le processus? Comment ça?
Vous parlez de forger un instrument comme si on imposait une forme de l'extérieur. Je vous propose une autre image.
Je vous écoute.
Ce n'est pas comme construire un réseau de tuyauterie, c'est comme nettoyer l'anche d'un hautbois. Les mauvaises postures, le stress, tout ça vient pincer cette hanche.
Donc vous dites que c'est du nettoyage, pas de la fabrication.
Exactement. Le texte utilise un verbe fondamental. Il dit « révéler sa propre sonorité ». Il ne dit pas « inventer
».
La méthode vise simplement à relâcher la pression parasite pour que la vibration naturelle puisse enfin passer.
Je vois très bien la distinction que vous opérez entre l'ajout artificiel et le retrait des blocages.
Voilà. C'est apprendre à ne plus entraver son corps.
C'est une belle image. Cependant, même si on accepte cette idée de nettoyer l'anche, le but de ce nettoyage reste profondément utilitaire.
Ah bon? Utilitaire?
Absolument. Prenons le mécanisme de l'émotion. Le texte parle de canaliser son émotion et affirmer son caractère. Sur le plan neurologique, quand vous avez le trac, votre voix tremble parce que le système sympathique prend le relais.
Oui, l'anxiété de performance.
Et ce que propose Vocalis, c'est d'utiliser la respiration basse pour forcer le système parasympathique à reprendre le contrôle. C'est un acte de régulation volontaire. On construit une digue pour canaliser le flux, en fait.
Je conteste l'idée que canaliser signifie nécessairement manipuler pour l'extérieur.
Mais pourquoi d'autre le faire lors d'une prise de parole en public? C'est bien pour s'assurer que le message passe, non? C'est une action calculée?
Non, pas du tout. Si la méthode demande d'abord d'entendre et ressentir sa voix, ce n'est pas pour calculer un effet. C'est pour établir une boucle de rétroaction proprioceptive.
Une boucle de rétroaction?
Oui, ressentir, c'est ramener la conscience dans le corps. La conséquence directe, citée par le texte, c'est un bien-être existentiel.
Ouais, d'accord.
L'union du son et de la personne est si forte que l'axiome devient « ma voix, c'est moi ». Ce n'est pas le cri d'un stratège de la communication.
D'accord. le cri de quelqu'un qui se retrouve, comme vous dites. Mais si la démarche est si intime, comment expliquez-vous le traitement des dynamiques de groupe dans le texte ?
C'est-à-dire ?
Dès qu'on passe au collectif, cette notion de pure révélation de soi se heurte à une réalité physique évidente. L'espace acoustique est limité, tout simplement.
Il l'est, oui.
Le texte aborde la polyphonie vocale en parlant de, je cite, « cultiver son assertivité pour faciliter le travail en groupe ». Dans un contexte professionnel, l'assertivité, c'est prendre sa place.
Mmh.
Et physiquement, ça veut dire générer de la pression acoustique, projeter des fréquences, comme le fameux formant du chanteur autour de 3000 Hz, pour percer le bruit ambiant.
Je vois où vous voulez en venir.
C'est l'influence pure. C'est un entraînement à la gestion des rapports de force pour exister face à ses collègues.
Je comprends votre analyse, mais je crois que vous l'isolez de son contexte direct. Vraiment, l'assertivité n'est pas synonyme de compétition.
Ah non, percer le bruit des autres, ce n'est pas compétitif.
Pas dans le chant choral. Vous omettez la phrase qui précède « faire entendre sa voix et écouter celle des autres pour rechercher l'harmonie ».
L'harmonie, d'accord, mais techniquement parlant.
Techniquement, il ne s'agit pas de crier plus fort, il s'agit d'ajuster ses harmoniques. Quand deux voix s'accordent, on a une interférence constructive.
Ah oui, les ondes qui s'additionnent.
Exactement, les ondes se renforcent mutuellement. L'assertivité, c'est juste maintenir sa note pour que les autres puissent s'y accorder. Si vous vous effacez, tout s'effondre.
J'entends bien l'explication sur l'interférence constructive. C'est un phénomène fascinant, je le reconnais. Mais en quoi aligner sa fréquence permet-il d'atteindre ce bien-être dont vous parliez ?
Eh bien parce que le cerveau interprète cette cohérence acoustique comme une preuve de sécurité sociale.
N'est-ce pas juste une synchronisation auditive passagère ?
Bien plus que ça, l'écoute active sollicite les neurones miroirs. Votre rythme cardiaque se synchronise avec les autres. L'ego de la performance pure s'efface totalement.
L'effacement de l'ego, je vous l'accorde, c'est une mécanique puissante. Mais cette idée pose un problème fondamental face à la réalité économique du programme.
Ah, on en vient au secteur commercial.
Bah oui. Si le but ultime est la dissolution de l'ego, pourquoi les vecteurs principaux ciblent-ils l'événementiel et les ateliers en entreprise ? L'entreprise, par définition, c'est le lieu du rendement.
C'est le contexte d'application, pas la nature de la méthode.
Quand une direction des ressources humaines investit là-dedans, elle cherche à optimiser l'impact de ses orateurs. Elle achète une ingénierie de la persuasion. Le bien-être n'est qu'un effet secondaire.
Je ne suis absolument pas d'accord. Il faut séparer le cheval de Troie de la cargaison qu'il transporte.
Le cheval de Troie. Vous allez devoir m'expliquer ça.
Avec grand plaisir. Si vous regardez le lexique de Vagliani, les mots comme plaisir ou sensation de plénitude relèvent de la phénoménologie.
Est-ce que vous pouvez préciser comment ce terme s'applique spécifiquement ici, juste pour être clair ?
Absolument. La phénoménologie, c'est l'étude de l'expérience vécue de l'intérieur. Ce que Vocalis propose même en entreprise, c'est de modifier son expérience interne.
Donc le but n'est pas le charisme externe.
Un dirigeant peut commencer avec cet objectif utilitaire, bien sûr. Mais le processus physiologique l'oblige à relâcher sa mâchoire, à trouver un ancrage.
Mmh.
En faisant cela, il passe de l'anxiété de performance à la présence pure. Vous affirmez que le bien-être est un effet secondaire de la performance, mais je soutiens la causalité inverse.
Vous inversez la causalité, en somme.
Totalement. La performance sociale n'est que l'effet secondaire visible d'un être humain qui cesse de gaspiller son énergie à porter une armure. La finalité, c'est de ramener l'individu à cette sensation vitale. Ma voix, c'est moi.
Eh bien, si je résume notre analyse, je constate quand même que nous convergeons sur la fondation même de la méthode.
C'est-à-dire ?
Nous sommes tous les deux d'accord sur le fait que le texte de Valiani pose une exigence absolue de précision physiologique. Sans cette biomécanique stricte, ni l'optimisation de l'influence, ni l'éclosion de l'identité ne sont possibles.
Ah, tout à fait. La démarche ne renie jamais le corps. La voix est une réalité physique avant d'être un outil ou une âme.
Notre désaccord fondamental persiste néanmoins sur la direction de cette énergie. De mon côté, au vu de l'arsenal technique déployé, je maintiens qu'il s'agit d'une méthode rigoureuse pour forger la voix, un processus externe.
Ouais, je comprends. Et je maintiens ma lecture d'un mouvement qui va vers l'intérieur. En se libérant des tensions, l'individu ne se dote pas d'une arme pour convaincre. Il révèle une sonorité propre qui restaure une harmonie intérieure profonde.
Eh bien, cette dualité entre l'action sur le monde et la révélation de soi souligne toute la complexité de ce phénomène si banal qu'est la parole.
C'est fascinant quand on y pense.
C'est une réflexion que vous pourrez poursuivre dès votre prochaine conversation. En ajustant votre timbre, êtes-vous en train de construire un outil pour maîtriser la situation ou tentez-vous simplement de laisser résonner ce que vous êtes ? Il reste assurément d'infimes nuances à explorer. Merci de nous avoir accompagnés dans cette analyse.